Dudes, you guys are gonna go back in time.
It must be some kind of
five,
hot tub time machine.
4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1.
Bonsoir à tous et à tous, vous êtes sur Radio Saint-Afrique, il est 20h passé de quelques secondes. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro mensuel de Classics Time Machine du mois de mars. Comme chaque mois, grâce à mon invention, vous voyagerez dans le temps en musique et en archives, en ma bonne compagnie. Je suis le Dr M, votre érudit de service, et je vous emmène faire ce voyage radio-temporel de mars 1968 à mars 1996 en une heure chrono seulement. Ce soir, on parlera de lutte sociale au Royaume-Uni, de violences policières aux États-Unis, de l'émergence des lois anti-armes à feu ou encore de la pollution maritime et bien d'autres sujets, je ne vais pas tout vous dévoiler tout de suite. Et côté musique, il y en aura comme d'habitude pour tous les âges et tous les goûts, alors restez avec nous, détendez-vous car ça commence maintenant.
Bonsoir. Ah vraiment, nous sommes trop gâtés et ça commence à suffire. Nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons des pétroliers au large et qui s'échouent sur nos côtes bretonnes. Nous ne sommes pas loin du record du monde de la pollution depuis ce matin. Avec ce pétrolier libérien dont l'armateur est américain et l'équipage italien, et qui s'est échoué sur les récifs à 2 km au large de Port-Sal, sur la côte nord du Finistère.
À 21h23, l'appel général de détresse est lancé. C'est trop tard. La Moko Cadiz est déjà échouée sur la grande base de Port-Sal. Depuis la fin de la matinée, privé de ses moyens de direction, le pétrolier de 230 000 tonnes a dérivé doucement vers l'est.
Ah ben il est là pour un moment, avant qu'on puisse le dégager. Puis il a 230 000 tonnes de pétrole, il faudrait bien trouver une solution pour le dégager.
Le 17 au petit jour, la Bretagne effarée retrouve son rôle de région témoin de la pollution accidentelle des mers par hydrocarbures.
Tout est à refaire, ou presque. Les militaires et les volontaires qui depuis quelques jours croyaient avoir vaincu la marée noire dans la région de Port-Sal sont désespérés aujourd'hui. Les plages et les criques qu'ils avaient nettoyées avec beaucoup de difficultés sont à nouveau recouvertes de pétrole. En Bretagne, depuis deux jours, le vent a tourné. Le pétrole de la Moko Cadiz a maintenant atteint les îles de Molène et d'Ouessant. La rade de Brest est menacée.
Le 16 mars 1978, au large des côtes nord du Finistère et à proximité du rail d'Ouessant, sévit une tempête comme on en voit souvent à cette période de l'année. Le navire Amoco Cadiz, qui bat le pavillon libérien, arrive dans le secteur depuis l'Arabie Saoudite et fait route vers le port de Rotterdam, où il doit livrer les 217 000 tonnes de pétrole lourd qu'il transporte. Mais soumis à une mer déchaînée, le gouvernail du navire tombe en panne et le bateau commence à dériver vers les côtes. Un signal de détresse est envoyé. Un navire marchand, le Pacific, se porte à son secours et tente de le remorquer, mais les vagues sont si grandes que le câble de remorquage casse à plusieurs reprises malgré les efforts des deux équipages pour ramener le supertanker en pleine mer. Dans la nuit, l'inévitable se produit, la Moko Cadiz touche le fond d'un banc de sable et s'échoue, la marée noire commence. Le pétrole s'écoule en mer et les conditions météo ne permettent pas que des navires venus pour pomper le pétrole des cuves fassent leur travail. Tous assistent impuissants à la catastrophe. Le navire finit par se briser en deux et plus aucune récupération du pétrole n'est possible. Dès le lendemain, les Bretons se réveillent avec une vision d'horreur. Les plages sont totalement recouvertes d'une épaisse couche noire et gluante. L'odeur de l'hydrocarbure est insoutenable. On sentira l'odeur du pétrole jusque 20 km dans les terres. Des milliers d'oiseaux s'échouent sur les plages, complètement englués et agonisent. Les Français découvrent les images de ce désastre à la télévision le matin même. Les agriculteurs et les pompiers sont les premiers à se mobiliser pour nettoyer ce qu'ils peuvent, mais le travail est titanesque et malgré l'arrivée de volontaires venus de toute la France, tous manquent de moyens et de machines. L'État enverra sur place des milliers de soldats avec des équipements lourds, mais la plupart du travail pénible doit se faire à la main. Il leur faudra des mois pour effacer visiblement les traces de la marée noire, mais les conséquences écologiques et économiques seront durables. On estime à plus de 10 000 le nombre d'oiseaux qui ont péri sur plus de 400 km de côtes souillées. Le préjudice économique est évalué à 3 milliards de francs et les coûts de nettoyage à plus de 2 milliards de francs. Forcément, il va bien falloir trouver un responsable entre l'armateur libérien, l'équipage italien et le groupe Amoco situé aux USA pour payer la note. Le procès de la Moco Cadiz condamnera la société américaine à rembourser à peine 50% des coûts de la catastrophe, ce qui fut une énorme déception pour les parties civiles. Néanmoins, cette marée noire, une des pires de l'histoire, permettra une prise de conscience des dangers liés au transport de pétrole et se traduira par une modernisation significative des moyens de prévention des accidents et de secours en haute mer, ainsi que l'instauration d'un fonds pour la protection des littoraux et fonds marins à l'échelle nationale, financé par l'État. Le passage par le rail d'Ouessant est prohibé aux navires lourds et des normes de conformité des navires sont imposées pour pouvoir passer près des côtes françaises. Mais tout ça n'empêchera pas d'autres marées noires sur cette même route, comme celle du tristement célèbre naufrage de l'Erika en 1999 et du Prestige en 2003.
Are you a doctor, right?
I'm a doctor.
I'm a doctor.
I'm a doctor.
I'm a doctor.
You can tell me I'm a doctor.
Et pour illustrer en musique cette année 1978, j'ai choisi de vous passer un titre de l'excellentissime groupe britannique The Clash. En plein essor du mouvement punk, le groupe The Clash, derrière leurs compositeurs Joe Strummer et Mick Jones, se différencie pas mal des autres groupes punk de l'époque par un positionnement plus politisé et moins absurdiste, pour ainsi dire, que leurs consorts. Le titre que j'ai choisi, White Man in Hammersmith Palais, n'a pas été publié sur un de leurs albums, mais sorti en single en juin 1978. Joe Strummer y fait part de sa stupéfaction de voir des groupes punk et surtout la jeunesse se déchirer pour obtenir des succès commerciaux et l'attention des médias, plutôt que de s'intéresser aux vrais problèmes. Joe Strummer était allé en 1977 à une soirée reggae au palais de Hammersmith à Londres, et ce brave Joe fut épaté par le message politique et social que les artistes diffusaient sur scène ce soir-là. Mais il fut également déçu de remarquer qu'il était le seul homme blanc présent dans la salle, ce qui à ses yeux témoignait cruellement du manque d'intérêt que portait la jeunesse blanche pour les combats de société importants. Alors depuis qu'adolescent, je rêvais de faire de la radio et d'être seul maître de ma programmation, je me suis juré un jour de passer ce titre qui pour moi est l'un des tout plus grands singles du groupe de Clash et un de mes morceaux préférés tout court, un véritable classique. Aujourd'hui, je suis fier d'enfin honorer cette promesse, alors les voici, The Clash en 1978, White Man in Hammersmith Palais sur Classics Time Machine.
Bye.
seen the pictures of Los Angeles police officers beating a man they had just pulled over. The city's police chief said today he will support criminal charges against some of the men. Here's ABC's Gary Shepard.
The three police officers facing felony criminal charges were among a group of 15 who stopped a 25-year-old black man last Saturday night, then beat him, kicked him, and clubbed him, unaware that an amateur photographer was recording the incident on videotape.
In our review, we find that the officers struck him with batons between 53 and 56 times. One officer rendered six kicks and one officer one kick.
Civil rights organizations say the Los Angeles Police Department has a history of brutality and misconduct that goes back a quarter of a century.
We no longer want to have to wake up each morning not knowing what fear to expect next. Today, we are not sure that the police is there to protect us.
I just want to say, you know, can we all get along? Can we get along? It's just not right. It's not right. And we'll get our justice. They've won the battle, but they haven't won the war. We'll have our day in court, and that's all we want.
I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
Cette voix hésitante et meurtrie que vous venez d'entendre, c'est la voix d'un symbole des victimes de violences policières, c'est la voix de Rodney King. Tard dans la nuit du 2 au 3 mars 1991 à Los Angeles, King, un chauffeur de taxi noir américain âgé de 26 ans, est assis au volant avec deux amis. Ils reviennent tous les trois d'une soirée. Ils ont un peu bu, mais prennent tout de même le volant. Seulement pas de chance, ils croisent en chemin une patrouille de police. On fait signe à King de se ranger sur le bas-côté pour effectuer un contrôle de routine, mais il prend peur. Avec l'alcool qu'ils ont consommé, il sait que les choses vont mal tourner pour eux. King refuse d'obtempérer et cherche à rouler jusqu'à un endroit moins isolé, avec des commerces ou un croisement, pour ne pas se retrouver sans témoin si les choses dégénèrent. Les policiers se mettent en chasse du véhicule et menacent de faire usage de leur arme à feu. Rodney King finit par se garer le long d'un boulevard, les policiers sont vite rejoints par 12 autres collègues, on met les trois occupants de véhicules à terre, main sur la tête. Rodney King n'oppose aucune résistance, mais il reçoit une pluie de coups de matraque, de coups de pied. Un policier tire deux fois au taser sur lui en lui envoyant deux décharges de 50 000 volts. Même à terre et prostré, le passage à tabac continue. Au total, Rodney King aura reçu 53 coups de matraque et 7 coups de pied au visage. Il souffre lors de son admission à l'hôpital de 11 fractures faciales et crâniennes, une fracture de la cheville droite, son rein gauche est éclaté, on lui a cassé 6 dents et surtout, il souffrira de lésions cérébrales permanentes. Néanmoins, dans son malheur, la désobéissance de King aura tout de même payé. Il ne le sait pas encore, mais il s'est arrêté en face des fenêtres de l'appartement d'un certain George Holiday qui, en voyant la scène, saisit son caméscope et filme le passage à tabac. La presse s'arrache le film et le diffuse sur tous les canaux. C'est la première vidéo amateur virale sur les violences policières. L'impuissance et la résignation de King, encerclés par 14 agents dont 4 qui le tabassent sans pitié, tournent l'opinion en sa faveur. Le débat explose sur la place publique, les témoignages de la brutalité des policiers de la LAPD affluent. Pourtant, le 29 avril 1992, à la fin du procès contre la police, les 4 agents sont acquittés. Même le président George Bush Sr. déclarera incompréhensible la décision du jury. Des émeutes effroyables éclatent alors à Los Angeles, parmi les pires de l'histoire américaine. Elles dureront une semaine et causeront la mort de 53 personnes, feront 2500 blessés, 7000 départs d'incendie et des pillages en masse dans une zone entière de la ville où les autorités perdent totalement le contrôle de la situation. Rodney King, lui, reçoit 3,5 millions de dollars à titre de réparation des préjudices physiques et moraux, mais il ne se remettra jamais de cette épreuve. Pour supporter la douleur chronique, il boit et devient accro aux antidouleurs et à la drogue. Gardant de graves séquelles, il est bègue et partiellement handicapé moteur. Il meurt le 17 juin 2012 chez lui, étant ivre et seul à ce moment-là, il tombe dans sa piscine et finit par se noyer. Malgré sa mort, sa mémoire, elle, reste vive dans l'esprit des Noirs américains et Rodney King est devenu, malgré lui, un symbole des victimes de l'injustice dans son pays. Qu'est-ce que ça nous plaisait ça à l'époque, venu droit de LA quand ils savaient encore faire de la bonne musique, les Red Hot Chili Peppers, issus de leur deuxième album, Blood Sugar Sex Magik, c'était leur tube de 1991, Give It Away Now ou Give It Away.
Après l'annonce de la mort de Serge Gainsbourg hier soir, Gainsbar, le provocateur, Gainsbourg, l'artiste qui rêvait d'être peintre.
Serge Gainsbourg est mort hier soir et la mort d'un poète de cette envergure mérite bien cet hommage. Gainsbourg avait 62 ans, il avait eu de nombreux accidents de santé, deux crises cardiaques, une opération au foie. Ce matin, en tout cas, de très nombreux amis sont allés rendre hommage rue de Verneuil à celui que le grand public percevait parfois comme un provocateur, mais qui était surtout un artiste de génie.
Portrait d'un homme que l'on aimait ou que l'on détestait.
On est cerné par les cons. D'ailleurs, toi, le premier, t'es un con. Et je t'emmerde.
I said I want to fuck her.
Oui, alors, je vais vous traduire. Non. He said you are great. Il dit que vous êtes très jolie. Non. C'est... Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs.
Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien la baiser.
Il a dit...
Je vais prendre un billet de 500 balles. Hein, je vais vous dire, je suis taxé à 5,74%. Hein, je vais vous dire ce qu'il me reste. C'est bien que ça, c'est illégal ce que je veux faire.
C'est illégal, oui.
C'est illégal, je vais le faire... Si on le fout en tour, j'en ai rien à cirer. Il faut quand même pas déconner. Hein. Parce que ça, c'est pas pour les pauvres. Hein. C'est pour le nucléaire et tout.
Vous vous rendez compte que vous provoquez beaucoup de monde?
Que pensez-vous de votre geste lors de l'émission 7 sur 7?
J'en ai d'autres. Hein.
Alors, qu'est-ce que vous feriez?
J'en ai d'autres.
Comment
vous écoutez-moi, enlevez votre Walkman. Ou le cérumen, je sais pas. Moi, j'ai flambé 50 sacs. Et ça m'a rapporté 500 briques de pub.
Aimé ou détesté, Gainsbourg-Gainsbar n'aura en tout cas jamais suscité l'indifférence.
Je suis très triste. On a perdu un grand homme.
Et ça me fait vraiment un coup parce qu'il paraissait immortel. Et...
Il a fait son malheur en buvant, bien sûr, mais enfin, il était un brave homme. Il était gentil pour tout le monde.
Ouais. Gainsbourg, l'homme à la tête de chou, le roi de la provocation médiatique, l'homme de tous les scandales qu'on s'arrache sur les plateaux télé, l'homme qu'on adore ou qu'on déteste, mais aussi un des plus grands compositeurs et poètes du XXe siècle, meurt le 3 mars 1991, victime de ses excès. Femme, tabac, alcool, quand Gainsbourg se barre, disait-il. Alors nul besoin, j'en suis sûr, de vous présenter cette icône de la culture et de la contre-culture française. Tout le monde connaît à peu près le parcours artistique et personnel de ce fils d'émigrés russe juif, Lucien Ginsburg, de son vrai nom, né en 1928 et qui a publié 17 albums et plus d'une cinquantaine de singles. Durant sa carrière, il a touché à tous les genres contemporains, jazz, classique, pop des 60s, musique afro-cubaine, rock progressif, reggae, funk et même rap. Son influence musicale est considérable et sa renommée internationale. Gainsbourg avait le génie de la composition, le sens mélodique ultra développé et un talent impressionnant en tant que parolier, excellent dans le calembour et le jeu de mots, usant d'allitérations sonores et claquantes qui en faisaient son image de marque. Mais Gainsbourg, c'est aussi un personnage public sulfureux, tantôt fragile et sensible, amoureux et vulnérable, drôle et intelligent, tantôt tyrannique et mesquin, poussant la provoque jusqu'à en dégoûter ses plus grands admirateurs. On connaît les dérapages télévisés de Gainsbourg, brûlant un billet de 500 francs au journal de 20h, ou encore sa pathétique tirade alcoolisée contre Catherine Ringer, la chanteuse d'Erita Mitsuko, qu'il traite à maintes reprises, je cite, « de pute ». Alors, pour sa défense, il faut savoir qu'il est connu que les animateurs télé réalisent vite que Gainsbourg fait de l'audimat, et surtout après quelques verres. Gainsbourg est donc systématiquement convié à se présenter sur les studios télé des heures avant l'émission, laps de temps durant lequel la production, bien sûr, organise des repas bien arrosés. Sans totalement s'en rendre compte, vers la fin de sa vie, rongé par l'alcoolisme et l'amertume de ses échecs amoureux, Gainsbourg était devenu une sorte de bête de cirque dont on usait et abusait. Sa mort, le 3 mars 1991, fit soudain prendre à nouveau conscience au public que Gainsbourg n'était pas seulement une bête médiatique, mais aussi un génie irremplaçable et aujourd'hui encore toujours pas remplacé. Bon bah, dure tâche que celle de devoir choisir un morceau parmi la pléthore de chefs-d'œuvre qu'a pondu Gainsbourg en 35 ans de carrière. Honnêtement, c'est impossible de sortir un seul morceau de son œuvre en déclarant celui-ci c'est le meilleur, parce que déjà, quel style choisir et aussi quelle période. Alors moi j'ai fait simple, hein, parce que je passe déjà pas mal de temps à réaliser cette émission et parce que j'ai aussi une vie sociale. Donc pour faire court, j'ai tiré au sort le morceau que je vais vous passer. J'ai mis tous les titres que je trouve vraiment bons sur des petits papiers et figurez-vous que j'avais quand même retenu 28 titres. Eh bien, le sort est tombé sur Marilou Reggae Dub, un excellent morceau de son album reggae mythique et scandaleux, intitulé Aux armes, etc., enregistré en Jamaïque avec une bonne partie des musiciens et la veuve de Bob Marley en 1979, et qui lui avait valu quelques intrusions de militaires dans ses concerts venus défendre, selon leurs propres mots, l'hymne national. Ultime provocation, Gainsbourg achètera après cet incident la copie manuscrite originale de la Marseillaise, écrite par la main même de Rouget de Lisle Adam. J'imagine très bien encore en train de rire dans sa barbe de 3 jours. Allez, ciao Gainsbourg.
Distingué de petits serpents guetangués, quand Marilou danse reggae, sur Marilou passé à gué, beaucoup caresse et endigué, spermatozoïde aux aguets, quand Marilou danse reggae, au bord climax vers le gué, changer vitesse, changer braquet, décoller avion braqué. Quand Marilou danse reggae, elle et moi plaisir conjugué, en Marilou moi seringué, faire mousser en reggae. Quand Marilou bien irriguée, jamais, jamais épiloguée, record à corps homologué.
fought for 19 weeks. We're going into the 18th week of a strike. We've come too far for anything other than to win a victory.
About 100 miners at Shirebrook Colliery are now ignoring picket lines and going to work. And at first, those miners were able to clock on for the morning shift without difficulty. Pickets were heavily outnumbered by police.
Violence will not succeed, for the police and the courts will not bow to it. They are the servants not of government, but of the law itself.
I will never negotiate with people who use coercion and violence to achieve their objective. They are the enemies of democracy. They are not interested in the future of democracy. They are trying to kill democracy for their own purposes.
Le 4 mars 1985 prenait fin la grande grève des mineurs britanniques qui fut un épisode important de l'histoire industrielle du pays car son déroulement et son aboutissement modifièrent profondément la place des syndicats dans le paysage social et politique en Grande-Bretagne. La grève dura de mars 1984 à mars 1985. Elle marquait l'opposition de l'Union nationale des mineurs au projet soutenu par le gouvernement de la première ministre Margaret Thatcher de fermer d'abord 20 mines de charbon puis d'autres par la suite. Durant 355 jours, les mineurs, menés par le responsable syndical Arthur Scargill, tentèrent en vain de préserver leurs emplois, mais se heurtèrent à la dame de fer dont le gouvernement refusa toute négociation et engagea le conflit social dans un bras de fer ponctué de violences policières et de manifestations monstres. Bien décidée à faire étouffer la contestation sociale, Madame Thatcher s'est évertuée un an durant à jouer sur les divisions au sein du mouvement minier en tentant de briser la grève par l'organisation de convois de mineurs non grévistes, lourdement escortés par la police pour passer les nombreux piquets de grève. Margaret Thatcher fit preuve d'une rigidité idéologique totale et la répression du mouvement fut disproportionnée, les forces de police envoyées sur place dépassant souvent largement le nombre de grévistes. La grève fut le symbole du virage ultra-libéral que fit opérer au pays la première ministre Thatcher et sa volonté de destruction des forces syndicales du pays. Ce fut l'une des plus longues grèves de l'histoire du Royaume-Uni, mais finalement, les grévistes retournèrent au travail le 4 mars 1985 sans rien avoir obtenu. Leur perte financière était trop importante. La plupart des mineurs vivaient sans le sou dans un état de pauvreté criant et l'hiver 84-85, particulièrement dur, finit de saper le moral des grévistes qui ne pouvaient même plus payer leurs factures de chauffage. L'arrêt de la grève marqua un succès politique pour le gouvernement de Margaret Thatcher qui porta un coup fatal aux illusions de dialogue social sous son administration. La dame de fer faisait une fois de plus preuve de son intransigeance et de son insensibilité morale. Et c'est justement en 1985 que le chanteur Renaud, inspiré et écœuré par ces événements, composa sa célèbre chanson anti-Thatcher, Miss Maggie. Je suis à peu près sûr que vous la connaissez tous, mais je doute que vous ayez déjà entendu la version en anglais de cette chanson que Renaud enregistra dans la foulée. La chanson est un copier-coller traduit de la version française, et si vous avez des petits complexes sur votre accent frenchy quand vous vous exprimez dans la langue de Shakespeare, je pense que l'accent à couper au couteau de Renaud vous rassurera immédiatement. Alors pour une fois, je vais sortir de ma réserve et vous avouer que je n'ai pas écrit ce chapitre de l'émission sans ressentir un certain énervement, tant je déteste ce personnage que fut Madame Thatcher, qui reste à mes yeux l'une des pires personnalités politiques du XXe siècle, pour son manque d'humanité et son acharnement sur les classes sociales défavorisées d'une part, et je la rangerai sans sourciller dans le top 10 des salauds de l'histoire, hein, sans hésiter. Alors voilà, ça c'est dit, c'est fait. Maggie, si là-haut tu nous écoutes, je tiens à te dédier ce titre. Et voilà, comme on dit en Angleterre, toodaloo, you stupid old bat.
Fame or busy play. down to the last stupid cow. I praise with every word I utter. I'm disgusted by men now with their morals from the gutter. But there's no woman in this land quite as stupid as her brother, nor so vain or underhand, except maybe Madame Thatcher. Lady, I love you now, I do, 'cause when a sport becomes a war, there's no girls or very few among those fans who yell for more. Those fanatics of the games, beer and hate just make them mean. They call the other side such names and make such gods of their own team. There is no female hooligan in basilic filled with murder, no, not even in Britain, except for sure Madame Thatcher. I love woman just because when she's sitting at the wheel, there's no man-like sense of loss, no urge to kill is yours to feel. For a slightly damaged headlight or two fingers in the air, there are those who wish to fight to the death if they but dare. And a pure safe favorite sign, there's no woman so vulgar to use this symbol all the time, except perhaps Madame Thatcher. Die, because the vision of a gun does not make you pant and sigh. With those hunters of the night who jump on creatures that are frail, or a child in their gun sight, I have yet to see a female. There is no woman low enough to spit and polish a revolver, just to feel so bloody tough, except for sure Madame Thatcher. The atom bomb was never made by a human female brain, and no female hand has laid those US peoples of the plain. Palestinians and Armenians bear their witness from the grave that a genocide is masculine, like an SS or Green Beret. In this bloody mass of men, each assassin is a brother. There's no woman rivals them, except of course Madame Thatcher. And nasty woman above all, I love your gentleness so mine. Man draws strength from his own balls, which like his gun he shoots from wild. And when the final curtain draws, he joins the cretins in the harvest, playing football, playing wars, or who can be the fathers? I will join the doggy host and love my days on earth. As my day-to-day long post, I would use Madame Thatcher.
Это на первый взгляд кажется, что частный сектор, мы вроде увлеклись или что-то делаем. А на самом деле мы ее до того, причем какой частный сектор?
Et puis, à l'étranger, le changement de pouvoir très rapide qui vient de s'opérer au Kremlin. Mikhail Gorbatchev a été élu secrétaire général du Parti communiste Union soviétique. La rapidité de cette nouvelle est une première surprise, et le deuxième fait nouveau et important, c'est qu'un homme jeune accède au pouvoir suprême. Monsieur Gorbatchev a 54 ans et on le présente déjà comme un homme de renouveau.
I like Mr. Gorbachev. We can do business together, but we have two great interests in common, that we should both do everything we can to see that war never starts again.
We have listened to the wisdom of in an old Russian maxim. Though my pronunciation may give you difficulty, the maxim is dovayai no provayai. Trust but verify.
На каждой встрече вы это повторяете.
You repeat that at every meeting.
Avec la mort du vieux secrétaire général du Parti communiste Léonid Brejnev en 1982, l'URSS est dans une mauvaise passe. 1984 voit arriver, en un peu plus d'un an, trois secrétaires généraux du Parti communiste dans une période d'instabilité politique que les pays de l'Ouest nommèrent la gérontocratie. En effet, le septuagénaire Yuri Andropov prend le pouvoir en 1983, mais meurt un an et deux mois plus tard, en février 1984. Il est remplacé par le tout aussi kakoshime Konstantin Tchernienko, qui tient encore moins longtemps que son poste, et meurt à un an et un mois plus tard, le 10 mars 1985. À la mort de Tchernienko, les membres du Politburo à Moscou réalisèrent un peu tard qu'il valait mieux mettre au pouvoir un homme dont la durée de vie excédait au moins celle d'une Lada. Ce fut chose faite le 11 mars avec l'arrivée au Kremlin de Mikhail Gorbatchev. Enfin, un homme relativement jeune, mais surtout un homme d'ouverture, soucieux de réformer l'URSS. On se rappelle de Gorbatchev pour trois choses. Le terme glasnost, relative à la libéralisation de la presse soviétique, fermement muselée depuis Staline. Le terme perestroïka, relatif à l'ouverture du pays en politique interne et à une désescalade de la guerre froide avec l'Occident. Et la troisième chose, c'est sa fameuse tache de vin sur le front. Gorbatchev arrive à la tête d'un pays au pouvoir rigide, mais en perte de souffle, et cela, il le sait bien. Il comprend que l'URSS ne peut subsister longtemps si l'économie et les mœurs politiques ne sont pas changées rapidement, et c'est ce qu'il fait. Au grand dam des apparatchiks, qui voient d'un mauvais œil l'assouplissement du régime totalitaire, et Gorbatchev s'attire vite les rancœurs tenaces au sein de la vieille garde du Kremlin. Quand on parle de grands révolutionnaires du XXe siècle, on cite souvent Lénine, le Che Guevara, Mao, Castro ou Nelson Mandela. Mais pour moi, oui, je vais oser le dire, un des plus grands révolutionnaires du XXe siècle, c'est Mikhail Gorbatchev. Alors, pardonnez-moi l'expression, mais il en fallait quand même avoir une sacrée paire pour oser de son vivant et à visage découvert réformer un des régimes les plus dictatoriaux et transformer radicalement la moitié du monde avec la chute du communisme. Avait-il conscience que la perestroïka menait l'URSS irrésistiblement vers sa chute ? Je pense pas. Hein. Je pense que s'il avait bien conscience des conséquences de sa politique sur le long terme, il n'avait pas tenu assez compte de la raideur d'esprit de l'appareil politique soviétique. Car c'est bel et bien la rancœur des apparatchiks qui causeront sa perte. En 1991, les officiers de l'armée rouge nostalgiques du régime dur se soulèveront et tenteront un putsch contre lui. La tentative échouera, mais en démissionnant dans la foulée, Gorbatchev provoque la chute de l'URSS. La Fédération de Russie est proclamée et Boris Eltsine, qui s'est illustré contre les putschistes, en devient le président. Voilà, c'était aussi simple que ça, hein. C'était à se demander quand même si tous les efforts d'armement, de diplomatie, d'espionnage, de contre-espionnage, de guerre froide, en valaient vraiment la peine.
We'll be right back.
C'était les Pet Shop Boys, duo londonien de New Wave et de Synth Pop, avec ce titre de 1985, West End Girls sur Classics Time Machine.
Sixteen children and their teacher are shot dead in their primary school in Perthshire. Good evening. It is a tragedy without precedent. A crazed gunman bursts into a primary school class in Dunblane and kills or wounds almost every child and the one teacher present. In just 3 minutes, 16 children are dead, 13 are wounded, and the man has killed himself.
Je vous propose maintenant de prendre connaissance du reste de l'actualité, à commencer par cet épouvantable massacre dans une école primaire en Écosse, où un homme porteur de plusieurs armes a tué 16 enfants âgés de 5 et 6 ans, une enseignante, avant de se suicider. Bernard Lebrun.
Il était environ 10 heures quand le directeur de l'école a fait appeler les familles après avoir alerté la police. Et c'est alors que l'on a vu de toutes parts accourir les premiers parents d'élèves. Les policiers avaient la charge la plus pénible, prenant personnellement en charge les malheureux dont le nom de leur enfant était sur la liste des victimes.
We were just heard it was a local man, or, but nobody seems to know. It doesn't matter who done it, whoever done it. Was it must have been deranged or something, you know. I mean, we children.
Le 13 mars 1996, dans le petit bourg écossais de Dunblane, à 9h30, un homme cagoulé fait irruption dans le gymnase de l'école primaire. Il s'appelle Thomas Wyatt Hamilton, il a 43 ans, il est au chômage depuis la faillite de son petit magasin 3 ans plus tôt. Il est rempli d'amertume et cherche à se venger des habitants de Dunblane qu'il juge responsables de son échec. En effet, Hamilton avait eu des soucis avec la justice, notamment pour avoir, lorsqu'il était responsable des scouts, forcé des jeunes garçons à se déshabiller pour les prendre en photo. Après plusieurs plaintes, il est radié de la fédération de scoutisme et la police commence à s'intéresser à lui. Plus tard, il devient animateur sportif et là encore, certains jeunes garçons se plaignent d'avoir été contraints de dormir dans le même lit que lui durant un stage. La police souligne, je cite, « le comportement moral suspicieux de Hamilton envers les jeunes garçons ». Il n'est cependant pas poursuivi, faute de preuves. Quand il emménage quelques années plus tard à Dunblane et ouvre un petit magasin, sa réputation finit par le rattraper. Dans une toute petite ville, tout finit par se savoir. En 1993, c'est la faillite, et 3 ans plus tard, Hamilton est donc présent à l'école primaire de Dunblane, armé de plusieurs revolvers de gros calibre, obtenus en toute légalité. Une fois dans le gymnase, il perpétue un effroyable massacre. 16 enfants d'une classe de CP et leur institutrice sont froidement et méthodiquement abattus. Peu d'élèves en réchappent, ceux qui le peuvent fuient, les autres se cachent. Parmi ces derniers, il y avait notamment celui qui deviendra plus tard la star de tennis, Andy Murray, qui s'en sortira indemne. Lorsque la police arrive, Thomas Hamilton retourne une de ses armes contre lui et se suicide. Cette horrible affaire eut des conséquences politiques immédiates. La colère des Britanniques lorsqu'ils apprennent la facilité avec laquelle un homme fiché par la police a pu obtenir sans souci non pas une, mais plusieurs armes ouvre un débat virulent. La Chambre des Lords vote finalement une loi interdisant totalement la détention d'armes à feu. Les chasseurs et les tireurs sportifs doivent obtenir une licence aux conditions très contraignantes. Il faut passer un examen théorique très encadré, un examen psychologique rigoureux et surtout avoir un casier judiciaire vierge. Toute arme à feu non adaptée à la chasse ou au sport est prohibée. Aujourd'hui, en 2018, on ne peut que comparer ce massacre et la réaction politique des autorités britanniques à celui de la tuerie de Parkland le mois dernier aux États-Unis, où un jeune de 19 ans, avec de graves troubles psychologiques et connu de la justice, a pu acheter sans souci un fusil mitrailleur en toute légalité pour perpétrer un massacre dans son lycée. Le week-end dernier, 800 000 personnes ont défilé dans les rues de Washington pour demander au président Donald Trump d'interdire la vente d'armes à feu. Mais la puissance et l'influence du syndicat des armes à feu, la National Rifle Association, ou NRA, et surtout les 30 millions de dollars que la NRA a investis dans la campagne présidentielle de Trump, assurent aux amateurs de gros calibre encore de beaux jours devant eux. À titre de comparaison, en 2016, il y a eu au Royaume-Uni 27 morts par balle. La même année aux USA, on en dénombrait 13 286.
Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse. Ooh.
It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Say, tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Black Street and Teddy, the original Rough Shakers.
Shutting it down, good lord. Baby got them open all over town. Strictly bitch, you don't play around. Cover much grounds, got game by the town. Getting paid is a forte. Each and every day, true play away. I can't get her out of my mind. I think about the girl all the time. East side to the west side, pushing fat rides, it's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash, fast when it comes to the gas. By no means average, it's on when she's got to have it. Baby, you're a perfect 10, I wanna get in, can I get down so I can win? I like the way you work it,
no diggity,
I got to bag it up,
bag it up.
I like the way you work it,
no diggity,
I got to bag it up,
bag it up girl.
I like the way you work it,
no diggity,
I got to bag it up,
bag it up.
I like the way you work it,
no diggity,
I got to bag it up.
She's got class and style, she knowledge by the pound. Baby never act wild, very low key on the profile. Catching feelings is a no. Let me tell you how it goes. Herbs the word, spins the verb. Lovers it curves so freak what you heard. Rolling with the fatness, you don't even know what the half is. You got to pay to play, just for shorty bang bang to look your way. I like the way you work it, trump tight all day every day. You're blowing my mind, maybe in time, baby, I can get you in my ride.
I like the way you work it,
yeah, no diggity,
I got to bag it up,
bag it up.
I like the way you work it,
no diggity,
I got to bag it up,
oh,
I like the way you work it,
no diggity,
I got to bag it up,
bag it up, babe.
I like the way you work it,
no diggity,
I got to bag it up.
First class from New York City to Black Street. What you know about me? Now don't think of the thing. Cartier wooded frame sported by my shorty. As for me, icy gleaming pinky diamond ring. We bees to buy this click up on this scene. Ain't you getting bored with these fake boards? High shows improves, no doubt. I've been thinking so. Please excuse if I come across rude. That's just me. And that's how a play it's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the peoples on my block. I'm as real as can be. Word is on. Faking moves never been my thing. So Teddy, pass the word to your nigga Chauncey. I'll be sending a call, let's say around 3:30. Queen Pen and Black.
No diggity, no doubt, baby.
I like the way you work it.
No diggity,
I got the bag.
Girl,
it up.
Got it going on.
I like the way you work it.
No diggity,
yeah,
I got the bag.
En 1996, le groupe Black Street featuring Dr. Dre and Queen Pen, No Diggity sur Classics Time Machine.
Et puis dans la soirée, ceux d'entre eux qui captaient les émissions du réseau CBS ont eu un choc. Ils ont vu apparaître sur leur écran un homme qui a l'apparence de l'Américain jeune et paisible, et cet homme a avoué qu'il faisait partie du détachement qui, le 16 mars 1968, sous les ordres du lieutenant Kei, qui est inculpé depuis, a massacré 109 civils au sud Vietnam.
I might kill about 10 or 15 of them.
Men, women and children.
Men, women and children.
And babies.
And babies.
Why did you do it?
Why did I do it? Because I felt like I was ordered to do it.
Medlow raconte comment le lieutenant Kelly lui a donné ordre de rassembler une quarantaine de personnes et le présentateur de la CBS demande des hommes, des femmes, des enfants. Medlow reconnaît oui, des femmes, des enfants, des bébés.
No, I did not shoot any child in My Lai, and no, I did not order any massacres in My Lai. I did not see any massacre in My Lai.
Go back and remember those all the sleepless nights that we had. Everything that went on. My life, all the people that were killed. Every day I try to make it easy. I thought that by drinking that I could make it easy and make it go away.
I will never forget. When I am reminded, I suddenly remember the pain. I will never forget.
As far as living with the shame of My Lai, I have no shame. It's a national shame.
Le matin du 16 mars 1968, vers 7h30, 120 GI commandés par le capitaine Ernest Medina posent leurs hélicoptères à Son My, un petit village du Vietnam. La guerre fait rage depuis plusieurs années et les soldats ont pour mission de débusquer des partisans du Viet Cong qui seraient en théorie cachés dans le village. Après les fouilles des maisons des villageois, ils ne trouvent qu'une seule carabine, mais aucune trace de combattants hostiles. Un petit détachement, le peloton C, se dirige alors vers le hameau de My Lai. Les villageois, qui se préparent pour une journée de marché, ne paniquent pas et ne fuient pas. Ils sont habitués à voir des soldats patrouiller. Soudain, sans avertissement, un membre du peloton commandé par le lieutenant William Kelly pousse un villageois dans un puits avant d'y jeter une grenade. Des coups de feu commencent à fuser et les passants sont pris pour cible. Kelly aperçoit ensuite 15 ou 20 personnes, principalement des femmes, des enfants, agenouillés autour d'un temple. Il prie et pleure, mais Kelly et ses hommes les abattent tous. Dès lors, le massacre prend des proportions hallucinantes. Des centaines d'hommes, de femmes, d'enfants sont conduits devant une grande fosse et sont froidement abattus. Les maisons et les récoltes sont toutes incendiées, le bétail achevé. La tuerie dure plus de 2 heures. La plupart des GI assistent passivement au crime, refusant d'y prendre part, mais ils n'interviennent pas par peur de sanctions pour désobéissance. Puis un équipage d'hélicoptères qui survolait les lieux aperçoit les flammes et les corps alignés des victimes. Le pilote, Hugh Thompson, atterrit et son équipage et lui tentent de faire cesser le massacre. Ils s'interposent et font face au lieutenant Kelly qui leur ordonne de quitter les lieux. La tension monte et Thompson ordonne alors à son mitrailleur gauche de tirer sur les GI si un seul coup de feu est encore tiré sur les villageois. Réalisant alors la situation, les GI qui étaient restés passifs se joignent au pilote Thompson et font finalement cesser le massacre. Le reste des villageois est évacué par Thompson et Kelly et ses hommes se retirent. Il n'y aura que 12 survivants pour 504 morts. Ce massacre sera plus tard appelé l'épisode le plus choquant de la guerre du Vietnam. L'incident suscite l'indignation internationale et contribue à rendre encore plus impopulaire la guerre au Vietnam lorsqu'il devient public seulement en novembre 1969. Car les exactions du bataillon sont connues de la hiérarchie dès le premier jour mais resteront cachées au public sous l'excuse du secret défense. 26 soldats américains sont accusés pénalement, mais seul le lieutenant William Kelly, chef de peloton, est reconnu coupable. Il est condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité, mais il purgea seulement 3 ans et demi en résidence surveillée. Au début de l'affaire, les 3 militaires américains qui tentèrent de mettre fin au massacre et de sauver les civils cachés ont même été dénoncés comme traîtres par plusieurs députés américains. Ce n'est que 30 ans après qu'ils sont reconnus et décorés, l'un à titre posthume par l'armée américaine pour avoir protégé des personnes non combattantes sur une zone de guerre. Le massacre de My Lai reste à ce jour le pire massacre de civils par l'armée américaine.
There's something happening here. But what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. Telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn.
nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Better stop now, what's that sound? Everybody look what's going on.
C'était Buffalo Springfield avec ce tube For What It's Worth sur Radio Saint-Aff. Vous écoutez toujours Classics Time Machine. Eh bien voilà, on est à la bourre, mais vous êtes bien arrivés au terme de cette émission. Et comme d'habitude, si vous êtes toujours là, je tiens à vous remercier de nous avoir écoutés. C'est la fin de ce voyage radio-temporel de mars et je vous souhaite un bon retour vers l'année 2018. Cette émission a été écrite, montée et réalisée par le Dr M, c'est moi. Et je dis un grand merci à Clément à la technique ce soir pour son précieux savoir-faire. Vous pouvez réécouter cette émission vendredi prochain à 16h et dimanche à 17h et quand vous voulez et autant que vous le voudrez sur notre site radiosaintafrique.com. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain, le mercredi 25 avril à 20h en direct pour un nouveau numéro de Classics Time Machine. Salut à tous et d'ici là, restez classe.
Who is that? I'm the doctor.
No, you may be a doctor, but I am the doctor. The original, you might say.
I'll be back.